Culture.
Radio de la paix.
A ton lago. Bali yanyi nyuo. Bali yanyi bwenyu. Jaka waliyo.
Auditeurs et auditrices de Radio de la paix, bienvenue à ce rendez-vous culturel. Nous sommes à Divo, capitale du Lodjibwa, à la 14e édition du Djaka Festival, le festival des arts et cultures d'Ida, Avikam Godier, Dega et Neo, qui se tient tous les ans en août. À cette 14e édition, nous avons rencontré l'initiateur du concours culinaire du Djaka, qui met en compétition toutes les communautés vivant dans le Lodjibwa. Un concours qui met en valeur les habitudes et traditions culinaires. Cet homme providentiel se nomme Ouattara Yaya. C'est avec lui que nous allons faire une excursion dans le monde culinaire d'Ida. Présentation, réalisation, Abel César Cassin.
Je suis M. Ouattara Yaya, opérateur économique à Divo, d'Ida d'adoption. Parce que mes parents sont arrivés ici depuis, enfin nous sommes dans la troisième génération. Bon, c'est mon grand-père qui a, après avoir été recruté pour aller faire le service militaire français, il s'est évadé dans le train et il s'est retrouvé ici en 1943. Bon, il cherchait un endroit pour se protéger contre le danger imminent qui était la guerre.
Pendant plusieurs années, vous avez été le sponsor du concours culinaire de Djaka Festival. Qu'est-ce qui vous a motivé?
Bon, j'ai été sponsor du concours culinaire Djaka Festival parce que je voulais montrer l'importance de la cuisine dans la société d'Ida. Et quel était le sens de l'hospitalité du peuple d'Ida à travers sa cuisine. À travers la cuisine d'Ida, on retrouve beaucoup de facettes.
Il nous a été rapporté que vous connaissez beaucoup de mets. Est-ce qu'on peut en savoir quelques-uns?
Oui, par exemple, la particularité de nos sauces ici, c'est la sauce Kekra. Mais il y a encore d'autres facettes où le d'Ida voulait exprimer son sens de l'hospitalité. Par exemple, je vais prendre de l'escargot braisé.
On va y arriver. D'abord, la sauce chitra, c'est quoi?
La sauce chitra, c'est une sauce qui est faite à base de la potasse, de l'huile rouge et de quelques légumes.
Maintenant, les escargots.
L'escargot braisé, par exemple, c'était des mets de soutu, comme on appelle en Europe, les coupe-fins en pays d'Ida. Les coupe-fins, par exemple, le d'Ida qui était dans son champ, qui travaillait, il s'est dit que quelqu'un peut venir me surprendre en train de travailler. Si j'ai un peu de bandit, que j'ai de l'eau. Si c'est un étranger qui arrive et qui il a faim, il ne peut pas boire l'eau simple et puis vraiment être à l'aise. Donc il met quelques escargots près du feu et ça cuit. Dès qu'il reçoit quelqu'un, quand il te donne de l'eau, avant de te donner du bandit, il te donne au moins quelques escargots que tu mangeais pour pouvoir au moins résister. Et puis prends ton petit banji.
En pays d'Ida, on mange aussi beaucoup de bananes.
Oui, la banane, c'est l'aliment clé même de l'alimentation en pays d'Ida. Même le chétra dont je vous ai parlé. La potasse qui est adaptée à la sauce chétra, c'est la potasse qui est faite à base de la peau de la banane séchée et qu'on brûle pour obtenir une cendre. Et c'est cette cendre qu'on prend en fait de la potasse qui est adaptée à la sauce chétra.
C'est seulement le seul usage de la banane?
Non, il y a beaucoup d'usages. Il y a le foufou, il y a le foutou. Mais il faut dire que la culture d'Ida même, c'est une culture qui exporte et qui importe. Je prends l'exemple de le cracro. C'est des fritures de bananes, mais c'était pour lutter contre le gaspillage économique. Le cracro, c'était la banane qu'on ne pouvait pas prendre pour faire du foutou, ni faire de la bouillie de banane. Mais quand c'était trop mûr, nos grands-mères, nos mamans, elles écrasaient, pilaient ça dans un mortier, accompagné d'un peu de farine de manioc, qu'elle mettait ça dans un canari. Celui qui quittait l'école vers les 11h ou bien vers 17h, tu as faim. Avant que la maman ne puisse faire le plat, tu prenais un peu d'huile rouge, tu mettais au feu, tu faisais frire un peu de cette pâte-là. J'en mange qu'à présent. Mais j'incite même mes enfants à consommer la banane dans cet état-là. Parce que c'est de la banane bien fermentée, c'est très délicieux.
Voilà. Autre chose?
Bon, il y a par exemple aussi le plat kali. Le Plakali, pourquoi je parle du Plakali? Parce que le Plakali, c'est le lien entre le peuple Dida et nous qui sommes venus du Nord. Parce que quand les Dida ont vu que nous qui sommes venus du Nord, nos parents prenaient la nourriture à base de farine de maïs qu'on appelle le kabato, et que eux aussi ils avaient une nourriture qui ressemblait à cette nourriture-là. Donc, ils se sont dit quoi? Dans nos jeux de société, on invitait le nordiste à venir manger du Plakali. Jean dit, maintenant tu n'es plus dans la zone où tu mailles le maïs, il faut t'adapter à des nouvelles réalités. Comment manger du Plakali? Ça veut dire, il faut vivre comme nous pour être à l'aise avec nous. Vous avez peut-être entendu ce morceau, mais vous ne savez pas que c'est comme ça que ça signifie. Quand on jouait pendant les clairs de lune, après le repas du soir, on se croisait, que ce soit les Dida, les Loctones, les étrangers, on se croisait à la plage du village, on jouait. Maintenant, ceux qui étaient les autochtones, ils nous provoquaient. Et provoquant nos parents, solo na plakali domu. Et on courait, on se cachait. Donc c'était le jeu de société pour dire que le Dida a un sens de l'hospitalité et d'intégration.
Est-ce que vous connaissez d'autres mets?
Oui, il y a plusieurs mets. Il y a, par exemple, le maïs. Le Dida ne mange pas le maïs de façon originelle. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des peuples allochtones, le Dida a intégré le maïs dans sa consommation habituelle. On prenait des grains de maïs. On égrenait, on mettait dans une marmite, on mettait un peu d'eau. On chauffe. Et quand l'eau finit, on tourne, ça grille, ça pète un peu. On mangeait ça avec des noix de coco. Et en tout cas, c'était très délicieux. Le soir après les séances de la loukou, au village, parce que quand il y avait clair de lune, on prenait une bouteille, un bidon vide ou bien une casserole. Ça, c'était l'instrument. On faisait de la loukou. Et tout le monde pouvait danser la loukou.
Dites, vous êtes né dans quel village?
Bon, je suis né à Bada. C'est mon village.
Vous êtes né à Bada. Est-ce tout ce que vous connaissez à propos des mets Dida?
Vraiment, il y a une multitude. Même il y a l'apiti qui est fait encore à base de la banane. Ça, c'est encore de la banane de récupération. On écrasait, on faisait une purée qu'on mettait dans des feuilles d'acheke. On faisait bouillir comme ce que les Apollonais appellent la kassa. Voilà. Et donc, nous, on appelle ça l'apiti en pays Dida. Et il y a encore du poisson préparé dans des feuilles d'acheke. Il y a encore des champignons qu'on pouvait préparer dans des feuilles d'acheke avec quelques légumes. Au champ, on prenait ça pour manger de la banane. Voilà.
Est-ce que tout ce que vous êtes en train d'énumérer existe toujours?
Oui, ça existe. Si vous partez dans certains villages, vous allez voir que même au champ, quand on tue un rat, souvent, je n'ai pas oublié d'aller chercher une marmite avec des feuilles d'acheke. On découpe la viande, on met dedans, on met quelques légumes, on fait cuire vraiment un feu doux et on braise de la banane. Même de la banane qu'on vient de couper directement, on faisait cuire légèrement dans sa peau pour diminuer l'eau qui est dedans. Et après ça, on enlevait la peau, on braisait. Et là aussi, il y a une anecdote aussi pour montrer aussi le sens hospitalier du peuple Dida. Vous voyez, quand nos mamans préparaient avant, il y a de la banane mûre. Elles mettaient ça dans le foyer. Au moment où elles préparent, la banane a commencé à cuire. Si les enfants viennent de l'école, mais des petits-enfants ont faim, elle enlevait la banane directement qu'elle avait mis au feu avec sa peau. Elle enlève la peau, la banane est déjà cuite. Elle prend un peu de l'huile sur la sauce graine qu'elle prépare. Elle verse dessus avec un peu de sel. Les enfants mangent avant l'arrivée des parents.
Nous en arrivons maintenant au concours culinaire que vous avez introduit à l'époque. Vous avez sponsorisé à Djaka Festival. Comment avez-vous eu l'idée de ce concours culinaire?
Bon, j'ai eu l'idée parce que la première édition, quand je suis venu, j'ai vu qu'il n'y avait pas de concours culinaire. Et je me suis dit, ce qui m'a marqué dans le peuple Dida, c'est leur hospitalité. Et l'hospitalité du peuple Dida se marque par le fait qu'il ne veut pas voir son hôte avoir faim. Et ça nous a marqué. Mon grand-père nous a parlé de ça. Parce que quand il est arrivé ici, il n'est pas venu comme quelqu'un qui venait à l'aventure. Il était en fuite. Et quand il est tombé quelque part dans une plantation, c'est les Dida qui l'ont ramassé. Ils l'ont soigné et ils se sont occupés de lui. Ils ne voulaient même pas qu'il ait un peu faim. Même en partant au champ, quand il était dans sa convalescence, on préparait quelque chose pour déposer près de lui dans la case. Et il a remarqué que vraiment le Dida, il a toujours prévu quelque chose pour quelqu'un qui serait devant, qui serait de, en tout cas éventuellement de passage chez lui, pour qu'il ait quelque chose à manger. Donc vraiment, j'ai vu que pour mieux maîtriser le sens de l'hospitalité du peuple Dida, il faut analyser sa cuisine. Bon, au début, j'avais demandé que ce soit les Dida. Et après, on a commencé à introduire les autres communautés. Cette année, par exemple, il y a même une femme qui a été deuxième, elle vient d'Odjene. Elle a présenté le taux. Voilà, donc l'année surpassée, il y a eu d'autres femmes même qui ont introduit des mains baoulées. Voilà, il y a même des mains Yoruba. Il y a des mains aussi, le Gangré. Voilà, donc ça a été fait à base de l'haricot. Donc le peuple Dida est un peuple qui est ouvert au monde. Je crois qu'on ne va pas s'enfermer sur simplement nos mains. Puisqu'aujourd'hui, les enfants Dida vont partout dans le monde. Même on peut, demain, on peut introduire même des mains entières dedans.
Pensez-vous que le Djaka Festival va vivre encore longtemps?
Tant que le peuple Dida vivra, Djaka vivra. Bon, je crois qu'il y a un point qu'il faut ajouter. Je crois que le ministère de la Culture, dans la promotion de la culture des peuples, doit maintenant trouver un canevas pour inscrire Djaka comme le Massa d'Abidjan et faire venir encore d'autres partenaires, aider le commissaire général, M. Ndrama, à pouvoir vraiment exporter le Djaka comme le Massa d'Abidjan. Je serai à vie membre du comité et à vie djakaphile.
Mais vous ne sponsorisez plus le concours culinaire?
Bon, je ne sponsorise plus, mais je crois que Dieu merci, parce que ce que je cherchais, c'était que demain, on ait des sponsors. Aujourd'hui, il y a des sociétés sur place qui ont commencé à sponsoriser. Nous allons chercher maintenant à développer d'autres actions. L'année prochaine, je crois qu'on va faire un maquis spécial des mains des années 50. Ça veut dire ce que le Dida consommait avant l'indépendance. On va partir dans le fin fond de nos villages. Comment on cuisinait, comment on pouvait faire le bandi en son temps et comment on conservait l'eau. Donc nous allons chercher à créer un maquis spécial pendant le Djaka. Comment on mangeait en pays Dida, sans les cuillères, les fourchettes, on va créer ce cadre-là pour que les enfants puissent apprendre comment vivaient nos parents et demain mieux exploiter notre culture. Parce qu'il y a beaucoup de richesses dedans.
Dream, tamale, dream. Dream, tamale dream, tamale dream, se kolo buto mi plago I tamale dream wo.
Dream, tamale dream,
tamale dream, se kana buto mi plago I tamale dream wo.
Dream, tamale dream,
ale dream, tamale dream, tamale dream, se kana buto mi plago I tamale dream wo.
Dream, tamale dream.
Fidèles auditeurs, ainsi prend fin cette émission. Nous avons eu la bonne fortune de nous entretenir avec Ouattara Yaya, fin connaisseur de mains Dida. Cette émission a été réalisée et présentée par votre serviteur Abel César Cassin.
C'était Culture. Radio de la Paix.